With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où je donne chaque premier et troisième lundi de chaque mois la parole à un père pour parler de sa paternité. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte de deux autres podcasts, Histoire de Succès où j'interview des personnalités inspirées et inspirantes et Histoire de Mec où j'interview des mecs à propos de leur masculinité. Cette semaine, je reçois Mathieu Deslongchamps, qui est auteur, compositeur, interprète et qui sort le 26 mars son nouvel album intitulé Vivo en Penama. J'ai l'accent. Ensemble, on discute de son parcours de paternité, de la façon dont il a géré ses envies de voyage depuis qu'il est papa, de l'impact de sa foi religieuse sur sa vie d'une manière générale et aussi sur sa vie de papa. On discute aussi sémantique à propos du fameux instinct maternel, mais aussi de la façon dont il a tourné le génial clip de son titre Héros Anonyme avec son fils en tout premier rôle. Merci à Mathieu pour cette discussion à cœur ouvert. Merci aussi pour le débat tranquille parce que même si on n'est pas d'accord sur tout, c'était super de discuter avec lui. J'espère que cet épisode vous plaira. Pensez à vous abonner au podcast sur votre application de podcast préférée pour ne manquer aucun épisode. Et si vous avez deux minutes, merci d'avance de mettre une note et un cool commentaire, comme par exemple MHC78344, oui voilà, c'est le pseudo, qui a écrit « J'écoute régulièrement ton podcast et les invités sont toujours intéressants, mais l'épisode avec ton pote Gilles est vraiment exceptionnel. J'ai jamais autant rigolé dans les bouchons en allant travailler. Ça fait du bien, du naturel, de l'amour, des bonnes idées surtout, et surtout de la simplicité. J'ai adoré, avec 4 points d'exclamation. » Bah écoute, merci beaucoup MHC78344, ça me fait plaisir. Merci d'avance pour tous vos retours et vos commentaires. Vous pouvez venir sur le Discord pour venir discuter. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode et bonne écoute en compagnie de Mathieu.
Je te vois que tu es en train de regarder...
ça y est, je le sens. J'ai envie à nouveau. Je vois les jours heureux qui se pointent.
Tu l'as ou pas?
Ah ben oui. C'est pas Ben Mazuet ça?
Si.
Mais ouais, c'est drôle. Mais oui. C'est... Ouais, mais bah écoute, on les espère tous ces jours heureux, quoi.
Oui, c'est un cadre que j'ai chez moi, parce qu'on est chez moi avec, ben avec oui. Mathieu. Salut Mathieu.
Eh ben, salut.
Comment ça va?
Écoute, je vais bien, j'allais dire. Je vais très bien, je suis ravi d'être là. On a eu le temps de parler un petit peu avant d'allumer le micro. Et donc, on est très bien chez Fabrice. Je me sens presque chez moi, avec ce café. Ça va très bien.
Donc Mathieu, j'expliquais un petit peu en intro, mais t'es chanteur. Tout, ouais. Tu es un artiste.
Je sais pas le faire aussi bien, donc je vais te répondre normalement oui, comme un Parisien. Ouais.
Et tu sors prochainement ton nouvel album.
Tout à fait.
Je mettrai tous les liens dans les notes du super. Podcast afin qu'on puisse l'écouter. C'est super, ça renifle l'été, ton album. Ah mais oui, vraiment. Ouais. C'est trop canon.
Eh ben merci.
Je l'ai écouté en boucle après que la fabuleuse personne qui te sert d'attaché de presse m'ait envoyé le lien. Et vraiment, vraiment j'aime beaucoup. Et c'est elle qui m'a spontanément dit, Nina, je te cite, hein. C'est elle qui m'a spontanément dit, il faut que tu fasses un épisode d'Histoire de Daron avec Mathieu. Voilà.
C'est vrai.
C'est de ta faute si t'es là.
C'est elle qui m'a piégé, d'accord. Bon, ça a l'air d'être un piège sympa.
C'est un piège sympa.
Ouais, franchement.
T'es papa, en dehors de tes activités de troubadour, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Ça paraît un peu antinomique, enfin, un peu contradictoire, mais oui.
Comment ça contradictoire?
Non, bah, troubadour, qui dit troubadour, dit loin de ses enfants.
Ouais.
Loin du foyer.
Ouais.
Et donc, mais bon, je pense que je suis pas le seul dans l'histoire. Mais qui partent à la guerre, les marins, les... Donc on s'accommode.
D'accord.
Ouais.
Tu vas nous parler de tout ça. T'as un fiston?
J'ai un fiston qui a 7 ans et demi.
Ouais.
Et puis je viens d'avoir une petite fille qui a 8 mois et qui s'appelle Ondine.
Donc t'as vraiment la totale, quoi. Tu peux choisir.
Ouais, ça y est, je suis passé du côté vraiment père de famille, n'est-ce pas?
Oui, mais tu me disais juste avant qu'on enregistre que ça te faisait bizarre de te dire que tu pouvais plus, je sais pas, nier la réalité ou...
Oui, c'est-à-dire que, comme je disais, il y a les enfants, ça t'ancre forcément Donc, tu voyages moins. Y a, ça te met un petit coup de vieux quand même, forcément. Et un enfant, ça reste un peu rock'n'roll, quoi, tu vois. Tu peux avoir un enfant, ouais.
Tu peux le prendre dans ton sac à dos.
Exactement, et ça roule, je l'ai beaucoup fait sur l'épaule comme un sac de patates, malgré tout l'amour que j'ai pour lui, mais ça le fait rire aussi. Et c'est cool. Deux enfants.
Tu peux moins les...
Tu peux encore les prendre sur les deux épaules. Faut faire quelques pompes. Mais tu marches moins loin, tu vois. Donc, faut faire des pauses. Et oui, tout de suite, deux enfants, ça, il y a, voilà, il y a un côté un petit peu moins rock'n'roll. Un peu plus voilà, un peu plus sage, père pour de vrai, quoi.
Ça te fait peur?
En fait, ça me fait plus peu. Je me suis habitué déjà parce que mon fils, je l'ai eu, c'était pas prévu du tout, il arrivait comme ça et c'était vraiment pas prévu, la situation était pas du tout.
On va en reparler après, ouais. Plus en détail.
D'accord.
Si tu veux bien.
Et donc en fait, ça fait longtemps maintenant que je me suis habitué à cette situation, ouais, à être papa, et puis ta vie change, quoi, d'un coup. Et donc, non, je sais pas si ça fait peur. Par contre, ça fait accepter encore certaines choses. Voilà, le fait que plus de responsabilités, un peu moins de liberté, forcément.
Ouais.
Mais en même temps, on voit les fleurs qui grandissent et parfois on les prend dans les bras et on se dit quand même, ça vaut le coup. Non, c'est vrai, il y a des moments où qui sont difficiles et puis la petite te sourit et puis tu l'as dans les bras et d'un coup tu te dis ah ouais, elle est là ma récompense, quoi.
Parce que 8 mois là t'es dans le dur.
Ouais. Et en plus elle est pas comme son frère, elle touche à tout, elle est hyper active, je crois qu'elle a l'énergie de sa grand-mère, la maman. Parce que bref,
ta mère, c'est ça?
Non, de la mère de ma compagne qui est italienne.
Oui.
Donc, c'est le niveau au-dessus encore. Je te raconte pas le truc. Bref.
Tu disais justement que ton fiston est arrivé alors que c'était pas vraiment prévu.
Mm.
Comment c'est... Est-ce que toi, tu te voyais déjà père en grandissant?
Écoute, honnêtement, oui. Et toujours, j'ai toujours aimé les enfants depuis petit. J'ai toujours eu un vrai feeling avec les enfants. Et j'ai des rêves assez classiques, quoi. Je me voyais voilà, trouver la femme de ma vie, faire des enfants et avoir une belle famille, rigoler avec mes enfants. Donc pour moi c'était assez clair, mais je me l'imaginais pas aussitôt et puis comme ça au milieu de bam comme ça. Donc en fait ouais, c'est ça, j'ai eu mon fils c'est on va dire par accident, n'est-ce pas? Et puis en plus avec une Italienne qui était retournée chez elle, moi j'étais à Paris et elle m'a dit au téléphone, quoi, que
ok,
que voilà, qu'elle était enceinte. Donc sur le coup c'est un choc énorme parce que c'était pas prévu, qu'on était déjà un peu éloignés l'un de l'autre et tu vois ta vie qui change d'un coup. Surtout parce que moi, j'ai toujours été...
C'était quoi? C'était une copine de...
C'était une copine que j'avais rencontrée en été.
Ok. Donc, c'était un amour de vacances?
Ouais, c'est ça.
Ok.
Exactement. Et puis, une Italienne. Et voilà. Et du coup, voilà, je suis enceinte. Et c'est vrai que...
T'avais quel âge?
J'avais 27. Ça va.
Ok.
Ça va.
Oui, t'avais pas...
J'avais pas 20 ans.
20 piges.
Non. Mais bon, j'avais 27 et j'avais pas un rond, pas un truc, j'étais en vadrouille, enfin. Et elle avait pas beaucoup de ronds non plus. Elle avait pas vachement de situation non plus. Enfin, tous les compteurs étaient au rouge, quoi. Et je me souviens d'ailleurs à cette annonce que je me suis, c'est la première fois que j'ai eu besoin de ça dans la vie, je me suis dit, ok, je te rappelle, et je me suis allongé par terre. Et comme ça, en regardant le ciel, comme si je venais de me prendre un énorme coup. Et que j'étais KO, en fait. Mais physiquement, j'ai eu besoin de m'allonger pour sentir, je crois que j'ai eu besoin de sentir le sol sous moi pour me dire ça, c'est sûr, là. Il y a le sol, ça bouge pas. Tu vois, il y a presque eu ce truc.
Ouais.
Et puis après, je me suis relevé, il a bien fallu.
Comment ça se passe, toi? Une fois que tu t'es relevé, ouais, comment ça se passe dans ta tête?
Dans ma tête, au début, donc une fois que tu te relèves, en fait, très vite, je crois qu'il y a un vrai réflexe de survie que j'ai découvert et que j'ai découvert aussi par la suite, dès que j'ai eu des gros soucis et tout, qui est que l'être humain a tendance à tout de suite s'accrocher au positif, à voir que ça peut aller mieux, à accepter les nouvelles données, à les intégrer, et du coup, très vite, j'ai essayé de rebondir. Et puis très vite, voilà, l'idée d'avoir un enfant a pris le dessus. Enfin, la joie d'avoir un enfant a pris le dessus parce que je me suis imaginé sa tête quand il sortirait, comment il serait, tout ça tout de suite, ça m'a fait rêver. Et puis et voilà, je me suis dit allez c'est parti. Et puis très vite j'ai déchanté parce qu'après toutes les vraies difficultés arrivent quoi. Entre le moment où tu dis allez on y va c'est cool et puis le moment où voilà, enfin. Sans trop rentrer dans les détails, mais la grossesse a été un peu difficile, et même l'après, et puis j'étais entre deux pays, et on se connaissait très peu avec la mère. Et du coup, waouh, tout est revenu très fort. Et c'est là où il a fallu, être fort, je sais pas si c'est le mot, mais, ouais, c'est là où il a fallu en tout cas être souple. C'est-à-dire, savoir prendre les coups, esquiver, continuer. Ça a été un moment, je pourrais dire que c'est peut-être tellement le plus dur de ma vie, quoi.
Okay.
Parce que tout, tu remets tout en question, tout en doute. Et...
Qu'est-ce que tu remets en question à ce moment-là?
Bah, tu remets en question ta conviction, notamment. Honnêtement, je pensais pas que j'en raconterais autant, mais tu m'avais dit, tu racontes ce que tu veux. Bon, allez, allons-y. En fait, il y a la grande question de dire, bah, pourquoi tu le gardes, l'enfant, en fait, puisque tu es dans une situation comme ça. Or, moi. J'ai toujours été un défenseur de la vie, voilà, c'est quelque chose que j'assume. J'ai cette conviction et puis j'ai une foi, je suis chrétien et tout, donc c'est un truc que j'ai toujours défendu, en pensant évidemment que ça m'arriverait jamais, que je me retrouverais jamais dans cette situation, c'est ça qui est drôle. Et puis un jour, c'est comme si la vie te mettait face à toi-même, tu dis ben alors vas-y, t'as parlé, maintenant on va voir. Et donc j'ai suivi ma conviction, envers et contre tout. Et voilà. Et puis après, les problèmes arrivent, ils s'enchaînent, ça devient le festival. Tu peux plus te raccrocher à rien, et tu d'un coup, toute ta conviction est remise en question, et même ta vie. Et tu te dis, mais d'accord, j'ai tenu ma conviction, mais à quoi, enfin, à quel prix, quoi? Si c'est pour que ma vie soit ruinée, que je sois, enfin, parce qu'après, très vite, quand ça va pas, tu t'imagines le pire du pire,
ouais.
Et tu commences à dire, en fait, mais là, on en est là, mais ça pourrait aller là, ça pourrait aller là. Et puis, tu te dis, et puis, si on se sépare et que ça va pas, j'ai un fils à l'étranger, et puis, s'il a pas son père, peut-être ça ira pas. Et du coup, il va peut-être, vriller, mal tourner, et je risque toute ma vie sur moi, et puis, je m'en voudrais toujours et tout. Et tu te dis, ma vie est ruinée, quoi. Tu vois, ça passe de. Donc, et c'est là que. Et c'est là, voilà, c'est là que tu remets tout en question et que tu dis tout ça va-t-il vraiment la peine? Et dans les moments vraiment profonds de doute et de souffrance profonde, j'ai eu mes petits clins d'œil du ciel clair et net, je le sais. Enfin, c'est mon.
Oui.
Enfin, c'est surnaturel, vraiment des trucs inexplicables qui m'ont montré, qui m'a dit, ah, c'est chaud, tu galères. Mais t'as bien fait. C'est des coups de pouce souvent au moment quand t'es vraiment au bout du rouleau. Je crois que le ciel te donne un petit, parfois il pourrait se manifester plus tôt, tu vois. Tu dis, pourquoi t'attends vraiment ce moment-là, quoi, tu vois. Mais il est là, voilà.
C'est pour te faire un peu galérer, je crois.
Ouais, je pense. C'est pour nous. C'est une bonne question. C'est pour nous.
Bah, ça serait trop simple.
Si... Non, mais ce serait trop simple. Et puis, il faut y faire souffrir, ça fait grandir aussi, quoi.
Ouais.
Puis, ça apprend la vraie empathie avec les autres aussi. Hein. Parce que quand tout va bien, ceux qui vont mal, en fait, tu les oublies vite.
Mmh.
Tu t'en fous un peu. Et même, leur malheur, en fait, te tâche un peu. T'as pas envie de t'en approcher. Et donc, et quand tu vas mal, tout d'un coup. Tu vois tous les gens qui vont mal autour de toi et tu te rends compte à quel point il faut être solidaire, à quel point il faut c'est quelque chose de je sais plus, je crois qu'il y a une vieille phrase mystique tibétaine qui disait ton cœur s'est mis au diapason de la grande souffrance de l'humanité. Et c'est vraiment ça, quand tu souffres, eh ben en fait t'es connecté avec la souffrance des autres, et paradoxalement la souffrance connecte et elle est enrichissante, en fait. Il y a une profondeur que tu peux pas trouver si tu souffres pas.
Je suis assez d'accord avec l'idée. Après, j'ai une éducation catho, mais je m'en suis un peu éloigné. Si
d'accord.
Tu vois.
Ouais.
Donc, mais je comprends l'idée, quoi.
Tu vois.
Ouais. Comment ça se passe? Comment tu finis par, je sais pas, comment se passe la grossesse? Comment se passe l'accouchement?
Écoute, la grossesse, je fais des allers-retours, donc je suis là, je suis pas là. Quand je suis là à fond, mais c'est compliqué parce que je te dis, c'était une période difficile et que la mère de mon fils avait... sans rentrer trop dans les détails, mais elle avait perdu son père plus tôt. Ouais. Son monde autour d'elle s'était déjà un peu écroulé. Là-dessus, l'enfant qui arrive, sans situation, avec un musicien qui est là, qui est pas là, dans une relation qui était même pas très... très... très établi et très clair, et surtout qui avait pas forcément vocation à aller plus loin. En tout cas, bon, c'était l'été, et puis après l'été, les choses commençaient à... Donc, je pense que ça a été beaucoup, beaucoup pour elle. Et comme on en parlait tout à l'heure avec Nina, il paraît que tout remonte au moment de la grossesse. Je pense que tout est remonté, et c'est devenu un tigre à l'italienne, quoi. Moi, j'étais un poète à la française. Enfin, je sais pas si je suis un poète, mais j'étais en tout cas un rêveur, quoi. Et là, ça crée des situations complètement folles, quoi.
Oui, parce que j'imagine que vous devez aussi vous apprendre à vous connaître un peu plus.
Bien sûr.
Vous allez devenir parents ensemble.
On apprend à se connaître, mais dans un moment qui n'est pas cool du tout, quoi. Enfin, qui devrait l'être. Au début, t'es plein de rêves et tu... Ce qui te tient, en tout cas, moi, c'est que je me sentais investi d'une mission, quoi. Voilà, cet enfant arrive, ma mission, c'est qu'il arrive bien et que tout se passe pour le mieux. Et voilà, je gardais toujours en tête cette image de la barque et de la tempête, et qu'il fallait écoper, qu'il fallait ramer, qu'il fallait gérer les voiles, qu'il fallait rien lâcher jusqu'au bout, que la tempête s'arrêterait. Et écoute, la tempête a fini par se calmer un peu plus tard. Mais ça a été une bonne tempête, quoi. Ça a été une très bonne tempête.
Comment se passe l'accouchement? Comment se passe la rencontre avec ton fils?
L'accouchement, ben moi j'étais un peu en retrait, mais j'ai un peu vu les choses. Très concrètement, c'est très émouvant la première fois que t'as un enfant. Premier enfant, c'est très émouvant. Je me souviens d'avoir eu quand je l'ai eu dans les bras la première fois, d'avoir eu cette réflexion de me dire, on dit. Tu vois, tout à l'heure, je disais la vie est dure, c'est ce truc que t'entends depuis petit et tu comprends pas trop pourquoi. Bon, malheureusement, il y a des enfants qui savent pourquoi, mais moi, c'était pas mon cas. Et puis un jour, t'as un gros coup et tu dis, ah oui, la vie est dure. Et il y a pareil, la vie est un miracle, le miracle de la vie. Puis tu dis, oui, bon, la vie est un miracle. Pourtant, je te dis, je suis chrétien, je devrais le croire, mais je veux dire, tu le vis pas concrètement. Et quand j'ai eu le petit dans les bras, je me suis dit, la vie est un miracle. Vraiment. C'est-à-dire que, on n'a pas fait grand-chose au final, quoi. On a essayé de tenir la barque, on a fait ce qu'on a fait à ce moment-là, dans un petit moment, comme ça.
Tu veux dire que vous avez copulé, quoi.
Voilà, j'essaie de trouver un terme.
Tout ceci est un coït à la base.
Exactement. Je cherche le terme.
Oui, voilà, c'est sûr que c'est pas très poétique, je suis désolé.
Non, j'ai retrouvé un terme un peu sympa, mais
c'est
bon.
C'est pas mon métier, moi.
Non, on a eu ce petit moment, voilà, cette petite incartade, cette petite échappée comme ça, n'est-ce pas? Bon, bref. Et... 9 mois plus tard, t'as un être qui est là, qui est la moitié de toi, la moitié de l'autre, mais qui est pas ta moitié non plus, puisque c'est un être unique. Mmh. Et là, tu dis, ah ouais, c'est incroyable. Alors, je suis pas là pour faire un témoignage de A à Z sur ma foi, mais si tu veux, c'est toujours des choses qui me refont, qui confirment ce que je crois.
Qui te renvoie à ça.
Qui me renvoie à ça, quoi. Mmh. Je me dis, c'est dingue, quoi. Attendez, les gars, faut qu'on en parle, quoi. Qu'est-ce qui se passe? On a fait ça, voilà. On s'est chauffé un petit peu. Hein, et là, on a un être vivant qui respire par lui-même et tout ça. Et je me suis dit aussi, j'ai eu le sentiment, là aussi, je me suis dit le don de Dieu ou le don de la vie ou de la nature pour ceux qui, voilà, pour ceux qui peut-être, moi, c'est le don de Dieu, clairement, mais de se dire, on nous donne un enfant. C'est fort quand même, parce que tu te dis, enfin moi par exemple, en parlant de Dieu, je me dis Dieu fait des créatures à la rigueur, ok, mais qui donne à ces créatures le pouvoir de faire leurs créatures et qui leur laisse la liberté là-dessus de les élever, enfin de voilà, c'est énorme, c'est presque comme s'ils perdaient le contrôle. D'ailleurs, le contrôle.
Ah bah faut l'oublier, hein, une fois que t'es parent.
Ouais, et je veux dire le contrôle de l'humanité finalement. Oui. D'ailleurs, on voit que c'est le pareil. Contrôle il est un peu, enfin, c'est une autre discussion profonde, mais. Et ça m'a marqué. Je me suis dit, c'est fou, en fait. Je deviens créateur à mon tour. Je suis presque un peu divin, si tu veux. On est presque un peu divin en donnant la vie et en ayant cet enfant qui est le nôtre. Et donc ça a été très fort. Et puis la troisième chose, excuse-moi, mais tout me revient là.
Vas-y.
C'est que j'ai réalisé ce truc dingue, c'est que avoir un enfant, c'est la chose la plus banale et la plus extraordinaire à la fois. Et ce qui est drôle, c'est qu'on est tous là parce que nos parents nous ont eus, et etc. Et puis tous les enfants, tous les gens que tu vois dans la rue, c'est parce que voilà. Et en même temps, ton enfant à toi, quand il sort et que tu l'as, c'est, ben, j'en reviens, c'est un miracle, c'est un truc exceptionnel, c'est incroyable. C'est ton, tu vois tous les autres gosses qui sont dans les espèces de
dans les landes,
j'allais dire cool là, je sais pas en italien, dans les berceaux,
les couveuses.
Là. Les couveuses. Les... Bon, ils te disent rien, c'est pas les tiens, quoi. Mais le tien, c'est toute ta vie. Et t'as l'impression que ce qui se passe, c'est incroyable, exceptionnel, alors que c'est banal, ça arrive toutes les secondes et ça arrive partout. Et ben, c'est le, je crois que c'est le seul, la seule chose que j'ai trouvée qui est à la fois exceptionnelle et banale, c'est avoir un enfant. C'est exceptionnel pour toi, c'est banal pour les autres. Voilà.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée, ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos-séries, des recos-ciné, des recos-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview.
C'est intéressant aussi de faire le parallèle avec ce que tu racontais quand tu as appris que tu allais devenir papa et que tu t'es allongé.
Ouais.
Enfin, moi, j'ai ressenti vraiment ce truc de que ça manquerait... dans le sol, quoi, tu vois, il y avait un truc, je sais pas si ça t'a fait.
Oui, bien sûr, bien sûr. Bah oui, forcément, t'es moins volatile et volage aussi. Tu peux moins, déjà très concrètement, tu peux plus, moi qui voyageais beaucoup et qui ai beaucoup besoin de voyager, tout ça, bah tu peux moins le faire. Et puis, il y a un truc qui a été dur aussi pour moi, c'est de se dire tu peux plus partir. Et ne pas savoir quand tu reviendras et dire il m'arrivera quelque chose là-bas et s'il faut je resterai là-bas et tout ça c'est fini. Et ça a été très dur pour moi à accepter parce que j'étais pas prêt. Et
quand tu disais que tu voyageais, c'était quoi ta vie en fait avant?
Je voyageais, alors je passais pas non plus ma vie sur les routes, j'exagère, il y en a qui font ça, sac à dos, qui bossent, qui font les saisonniers, qui partent tout le temps, voire qui... Non, parce que moi j'ai toujours eu la musique, donc j'étais quand même ancré à Paris, et puis j'essayais d'avancer dans ma musique, d'écrire et tout ça, mais voilà, j'ai vécu au Panama petit, j'ai vécu un peu en Espagne, j'ai fait des road trips, notamment en Uruguay, au Québec, où je suis retourné voir ma famille, enfin j'ai toujours un peu voyagé à droite à gauche, et puis j'ai vécu une année en Argentine, et à l'époque... Je m'étais dit, il faut que je découvre le monde, il faut que je parte partout, quoi. C'était mon but, mon projet. J'avais vraiment cette nécessité. Et, Et puis finalement, je suis rentré à Paris, j'ai commencé à travailler dans la musique, enfin, j'ai commencé à écrire et à, j'ai enregistré un premier album qui est pas sorti en indé, un projet à moi que, donc ça m'a fait rester à Paris, et puis après, j'ai pu repartir un peu, mais bon, très rapidement, il y a eu l'enfant, et en fait, voilà, le temps passe vite, et tu te rends compte que finalement, t'as pas pu faire tous ces grands voyages que t'aurais voulu, mais voilà, j'en ai fait pas mal avant, et c'est resté en moi, et ça reste en moi aujourd'hui. Mais effectivement, on est plus enraciné, on est plus ancré, et aussi on est moins léger. Donc forcément plus enraciné, moins léger parce qu'on a une responsabilité, que tout ce qu'on fait maintenant a une conséquence, et tu mûris quoi, tu deviens plus homme entre guillemets. C'est la contrepartie. Enfin, c'est bien devenir un homme, mais ouais, je parle avec mon beau-frère souvent qui est très drôle, qui est espagnol, qui a un humour un peu comme ça, un peu cash, il est un peu brut de décoffrage et il est très drôle. Et un jour, je parle avec lui, il me dit très clairement, il me dit « Ouais, mais ça te coupe les ailes. » Je lui dis « Ouais, t'es dur, l'image, elle est dure. » Mais il me dit « Ouais, c'est vrai, ça te coupe un peu les ailes, quoi. » Alors après, tu t'en refais et puis tu peux aussi voyager sans ailes, quoi. Tu vois, tu peux prendre le bateau, l'avion et tout, mais ouais, forcément. Forcément, tu c'est plus pareil. Il y a vraiment un avant, un après.
Je vais en profiter pour faire un peu d'autopromo dans un de mes
je t'en prie.
Épisodes. Et c'est pour rebondir un peu là-dessus. C'est que j'ai interviewé ce mec qui s'appelle Loury et qui est explorateur. Et qui lui.
Ah, c'est drôle. Je me suis mis à le suivre il y a peu.
Ah, bah écoute, voilà.
Sur Instagram. Et j'étais intéressé par ce gars.
Ce gars, il est venu dans mon podcast pour expliquer à quel point c'était impossible pour lui de rester trop longtemps chez lui. Et qu'en fait, il était déchiré entre ce truc de laisser ses filles France, tu vois. Ouais. Et cette nécessité de devoir se casser à l'autre bout du monde pour vivre des trucs et parfois souvent prendre des risques
bien
en plus
sûr,
tu vois
bien
parce
sûr.
Que voilà
bien sûr.
Mais que ça faisait sans doute de lui un père un peu particulier par plein d'aspects et que d'un autre côté s'il restait là il deviendrait zinzin quoi tu vois il y a un peu ce truc là donc je vous invite à écouter je vous mettrai le lien dans les notes je te l'enverrai aussi comme ça c'est
ah ouais,
tu vois
ouais,
si
ouais,
tu suis un peu c'est intéressant cette dualité si tu veux
bien sûr ouais, je vois tout à fait je vois
ça,
bien le
ça te parle peut-être
ouais et puis à un moment tu finis par te dire attends est-ce que finalement j'étais fait pour avoir des enfants ou pas tu te poses la question tu dis en fait finalement c'est peut-être pas que la situation d'être à moitié à l'étranger. C'est peut-être que finalement. Et bon, bizarre, paradoxalement, non, puisque j'ai toujours voulu avoir des enfants. Mais de toute façon, il y a beaucoup de choses qu'on résout pas ici-bas. Hein. Il y a des paradoxes qu'on porte en nous jusqu'à la fin, quoi.
Ça, c'est sûr.
Donc voilà.
Comment se passe la première année avec ton fils? Parce que vous continuez à vivre à distance, elle en Italie, toi?
Alors, quand il est né, je suis resté un peu là-bas plusieurs mois, sur place, et puis après, j'ai dû commencer à retourner à Paris. Et donc c'était vraiment dur quand il était petit de partir parce que en plus je me suis beaucoup occupé de lui au début comme ma compagne n'allait pas super bien souvent c'était moi qui m'en occupais et du coup j'ai eu un rapport presque maternel parfois avec lui et du coup
paternel donc
ouais c'est ça
tu sais je fais très gaffe à ça
c'est vrai
ouais parce que ça fait partie des trucs où on a tendance à dire maternel alors qu'en fait t'es juste en train de dire que tu t'en occupes
paternel j'ai pas entendu
pardon oui c'est paternel
oui
genre tu vois de pas juste
bien sûr
réduire la, c'est un détail hein, tu vois mais je
non,
trouve
non,
que
mais
c'est
mais
tellement
non,
important
mais c'est intéressant que tu le soulèves parce que tu sais, moi, très honnêtement, je suis un peu conservateur. Et du coup, tu es en train de t'en rendre compte. Et en fait, il y a des trucs sur lesquels je suis pas du tout avec mon temps. Notamment la tradition, l'homme et la femme et compagnie. Moi. Voilà. Et je pense que... Je pense malgré tout que l'homme et la femme se complètent. Et s'ils se complètent, c'est qu'ils ont pas les mêmes choses. Et qu'ils apportent des choses différentes à leur enfant.
Ouais. Tu vois, tu t'en es occupé, t'as dit,
bien sûr,
dans les premiers mois.
Bien sûr.
Donc.
Non, mais bien sûr. Et d'ailleurs... Après, ça dépend des personnes aussi, tu vois. Je pense aussi qu'il y a des hommes qui ont plus de F en eux, comme on dit, ou de H, c'est-à-dire de côté féminin ou de masculin. Je pense d'ailleurs, je sais pas si c'est une analyse que j'ai faite, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est mes réflexions qui me poussent à penser peut-être que les auteurs-compositeurs, les créateurs, les artistes ont peut-être un aspect un peu plus féminin parce qu'il y a une sensibilité, quelque chose
qui est... Tu creuses peut-être un peu plus cet aspect-là de ta personnalité, quoi.
Ouais, il y a...
Enfin, ton entourage t'oblige en même temps, non? Tu vois, il y a un vrai truc de...
De quoi, de l'aspect féminin, tu veux?
Ouais, de ton métier, tu vas creuser une sensibilité, effectivement, qui est dite féminine dans notre société actuelle, quoi, tu vois, mais qui est pas, je sais pas si c'est forcément les femmes avec plus de sensibilité.
Je sais pas
quoi,
si c'est le, t'as raison là-dessus, mais je pense que c'est des sensibilités différentes. En fait, si tu veux, il y a pas d'homme absolu et de femme absolue. Oui. Donc, il y a des hommes qui ont une part de, mais on attribue quand même au masculin et au féminin des qualités.
Ça, je suis d'accord.
Donc, l'homme, pour moi, de façon juste, cette attribution, si tu veux, c'est, pour moi, c'est la nature telle qu'elle est. Mais il reste qu'il n'y a pas d'homme absolu et pas de femme absolue. Donc, t'as des hommes qui ont une partie féminine entre eux, on va dire, en tout cas, des qualités dites féminines. Et c'est-à-dire tous les hommes ont un peu de féminité entre eux et toutes les femmes ont un peu de masculinité. Et t'as des femmes qui sont très masculines.
Bien sûr.
Et vice versa.
Je te dis ça parce que mon point, c'est que ma fille est née quelques mois, quelques semaines après son cousin. D'accord.
D'accord.
Et donc, les deux, ils avaient le même âge, quoi.
Ouais.
Et en fait, c'était ouf. Moi, ça me rendait zinzin à l'époque de voir à quel point tout son entourage, mes parents, lui collaient des attributs féminins et des façons de, en fait, interpréter tout ce qu'elle pouvait faire à ma fille alors que vraiment elle avait quelques semaines, quelques mois. Et de l'autre côté, faisait exactement pareil. Ils étaient déjà en train de conditionner les mômes, ne serait-ce que par leur regard et la façon dont ils interprétaient leurs gestes, comme filles et garçons, quoi, tu vois. Je me disais, mais arrêtez, en fait, c'est juste pour l'instant des tubes digestifs qui ont besoin de manger, de dormir et de faire caca. Et en fait, parce que vraiment, quand c'est tout bébé, les bébés, ils sont vraiment que comme ça. Et vous êtes déjà en train de venir dire, oh, mais non, mais regardez comment elle est mignonne, elle fait comme ça. Et puis ça veut dire qu'elle est mignonne.
Si oui, mais tu vois, bon, on n'est pas complètement d'accord, mais c'est intéressant. C'est marrant parce que ça m'interpelle. Je crois que ma mère, l'autre jour, pareil, disait de ma fille. On voit que c'est une petite fille, un truc comme ça, elle est mignonne, je sais plus. Ou de mon fils, je sais plus. Je pense que, comme je te dis, enfin, ça reste cohérent avec ce que je crois, c'est-à-dire qu'on a des natures en nous ancrées, la nature masculine, féminine, et du coup, alors peut-être que parfois, il y a trop de. On a tendance tout de suite à dire c'est un truc de fille, un truc de garçon. Mais bon, c'est normal, si tu veux, c'est humain, et parce que on attend d'une fille qu'elle soit une fille, on voit sa féminité qui se déploie et on est heureux que ça soit. Et le petit gars qui fait son petit gars, ses bêtises de petit gars, c'est le petit gars et on est content, quoi, tu vois. C'est donc, je pense que c'est assez naturel et moi je vois pas de mal là-dedans. Après, là où oui, c'est dommage, c'est quand tu commences à interdire des choses à l'un ou à l'autre.
Fermer des portes,
voilà. Effectivement. Mes sœurs, c'est marrant, me le reprochent de temps en temps que mon père était un peu comme ça parfois avec elles.
Ouais.
Pourtant, mon père, c'est loin d'être.
Le fais pour protéger peut-être tes mômes aussi, tu vois, enfin, ou tes filles, tu vois.
Non,
tu...
mais on faisait des trucs, par exemple, avec mon père de père et fils. C'est normal aussi, hein, tu vois. On est deux garçons, on a aussi le droit d'avoir des trucs, tu vois, de mecs et tout. Mais il semblerait que parfois, il leur aurait mis des petites barrières ou des trucs de oh, c'est pas des trucs de filles, voilà. Donc ça, ça c'est vrai que c'est pas nécessaire.
Ah oui.
Moi, je me dis, ma fille, je veux l'emmener à l'aventure comme mon fils et je veux faire, voilà. Après, s'il y a un moment. Mais je pense que naturellement, a priori, il y a des trucs sur lesquels elle ira moins, voilà. Mais si elle veut y aller, on ira.
Mais tu vois, je pense que le simple fait de le penser, c'est déjà lui coller un truc, quoi, tu vois. C'est un peu ce que c'est.
En fait, je pense pas parce que je pense que c'est pas moi qui l'a défini, quoi. Elle se définira elle-même, tu vois ce que je veux dire.
En fait, ce que je veux dire, c'est que comme le reste du monde va se dire, ok, c'est pas forcément des trucs de filles, si toi t'es juste dans un truc d'ouverture et pas de limite à encourager, de vas-y, viens, si ça tu peux le faire si tu veux, t'es en train d'en rajouter une couche, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref, voilà.
Bien sûr.
C'est un grand débat.
Non, mais bon, sans rentrer sur le féminisme, si tu veux, parce que ça.
Oh, si tu veux, on peut en parler.
Non, parce qu'on va vers là, mais. Non, je plaisante, mais je pensais à. J'ai entendu ce truc l'autre fois d'un mec qui expliquait que. C'est intéressant, c'est un peu le débat. On met des filles et des garçons dans les clubs d'échecs, tu sais. Et qu'en fait, vers 13-14 ans, les filles désertent les clubs. Il y en a beaucoup moins. C'est intéressant, tu vois. C'est comme si, en fait, au bout d'un moment, naturellement, elles s'en désintéressent peut-être, tu vois.
Ou il y a un côté truc de garçon, enfin tu vois, l'aspect social, il joue peut-être un peu plus, enfin c'est
ouais, bon, ça je sais pas, c'est enfin.
Non, mais la discussion est intéressante.
Ouais, ouais, non, c'est là, bien sûr, c'est un autre débat. Après, je pense que naturellement, au bout d'un moment, les choses se font, c'est-à-dire que tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que comment te dire, penser à ce point-là que les êtres n'ont aucune liberté, qu'ils sont à ce point-là conditionnés, enfin, tu vois, je pense que, alors sûrement, il y a sûrement des barrières, sûrement un peu de machisme, ce que tu veux, tout ça. Mais si tu veux devenir champion d'échecs demain, tu peux le devenir. Et si t'as cette statistique, c'est toujours chiant de parler de statistiques.
Ouais.
Tu vois, mais ça dit quelque chose, quoi.
T'as vu cette série sur Netflix ?
Non, justement.
The Queen's Gambit, bah, faut que tu regardes ça, parce qu'en fait, tu vois, alors c'est une fiction, hein, tu vois, donc c'est pas tiré de la réalité, mais tu vois à quel point, quand t'étais une meuf à cette époque-là, c'était compliqué de sortir du lot, en fait, parce que tu ne croises que des mecs.
Oui.
Tu vois, t'es que entre mecs, en fait. Donc, d'un coup d'un seul, t'es vu comme la personne chelou, quoi, tu vois. Donc, ça joue aussi, tu vois, dans cet
ordre-là. Oui, et en même temps, ça peut créer aussi l'intrigue, l'intérêt, tu vois. C'est comme en musique, moi, je vois toutes les filles musiciennes. Oui. Je suis désolé de le dire, hein, les filles, elles ont plus de boulot, quoi. Et tant mieux pour elles, c'est génial. Mais parce que ça fait kiffer de voir une fille qui déchire la batterie sur scène. Un mec, on en a vu plein, tu vois. Donc, après, voilà, le monde des échecs, je le connais pas mieux que ça. Je sais pas comment ça se passe. Mais ouais.
Bon, on parlait de tes premières années en tant que papa.
Du coup, voilà, j'étais très proche de mon fils. Et puis quand je partais, c'était très dur parce que comme on était très proche, ben c'était un vrai déchirement. Et ce qui est dur, c'est quand ils sont petits et qu'ils comprennent pas encore. Tu peux pas leur expliquer. Et ça, c'est dur. Voilà, maintenant mon fils il est plus grand. Je sais qu'il en souffre quand même. C'est pas facile ni pour lui ni pour moi, mais il comprend. Voilà, on met des mots et tout ça. Quand ils sont tout petits, ils comprennent pas, ils se sentent abandonnés, t'essayes de leur dire, j'ai le souvenir des coups de téléphone, ça arrivait souvent sur Skype, tu sais, ou maintenant c'est, enfin bref, Skype par écran, et le petit qui tendait les bras, quoi, tu vois, en pleurant. Toi, t'es derrière ton écran. Oh. C'est dur. Toi, t'es dégoûté. Et voilà. Il y a eu beaucoup ça, et puis même des moments où je partais, ils pleuraient, quoi. C'est la crise où faut partir, sinon tu vas rater ton avion, et c'est là, il faut partir. Alors, il t'arrache presque des bras et tout, tu vois. Surtout au début, parce qu'au début, comme sa mère était moins là, quoi, elle était moins présente, je veux dire présente avec lui, quoi.
Physiquement.
Du coup, ça a créé ça a créé souvent ces déchirements avec lui.
Tu le vivais comment, toi ?
C'était dur. Et puis en plus, quand ils sont petits, le temps est plus long pour eux. Donc moi, je pars 15 jours. Pour nous, 15 jours, ça passe comme ça. Et pour eux, c'est très long. Moi, je le sais, je m'en souviens, parce que mes parents, quand ils partaient en tournée, quand on était petits, ils partaient pas très longtemps. C'était des petites tournées de 3 semaines. Et ça nous paraissait des mois. Je m'en souviens très bien. J'ai réalisé ça des années plus tard, quand mon père me disait, mais non, on partait 3 semaines et tout. Moi, je pensais, pour moi, c'était 3 mois, tu vois. C'était vraiment, ils partent, ça, c'est le long voyage, ils vont revenir dans longtemps. Et quand l'interphone sonnait et qu'on savait que c'était eux, on sautait, on criait, on était trop heureux, la porte s'ouvrait et tout. J'avais l'impression qu'ils étaient partis faire le tour du monde. Donc, je sais que moi, quand je pars 15 jours ou 3 semaines, pour eux, c'est très long. Et du coup, quand il était tout petit, là c'est en train d'arriver avec ma fille, ça va arriver de nouveau, je pense, c'est que quand il est tout petit, il y a des moments il t'oublie presque en 3 semaines, tu vois. Quand il est tout petit, hein, pas quand, mais vers 3 ans, où déjà il parle un peu. J'ai des souvenirs vraiment douloureux de retourner, puis de le voir, et puis de lui dire Théophile, je le regarde dans les yeux, il me regarde comme ça, et il bouge pas, il comprend pas. J'ai cette image un jour, je suis rentré, et puis il me regarde comme ça, je dis Théophile, et puis je vois qu'il capte pas et tout. Et puis je me mets debout un moment, je le vois contre-plongé, je le vois d'en bas, quoi. Et puis il baisse la tête comme ça, et il lève ses bras, en fait, il ouvre ses bras. En baissant la tête, c'est-à-dire qu'en fait, d'un coup, ça lui est revenu, il a refait le lien, mais avec cette timidité quand même de la personne qui ne reconnaît pas complètement, donc il regardait ailleurs, il baissait la tête, mais un peu en tendant les bras. Enfin, c'était une image, c'était assez fort, quoi, tu vois, c'était émouvant et un peu déchirant à la fois, quoi.
Et t'as jamais envisagé de d'emménager là-bas à plein temps ?
Ben, en fait, c'était compliqué parce que ça aurait voulu dire... renoncer à ce que j'avais construit dans la musique, tu vois. Moi, ça faisait des années que j'essayais d'avancer, que je construisais je faisais mon trou, que ça commençait à prendre doucement. Et, et, Et là, partir vivre à Milan, ça aurait été, parce que c'est à Milan, ça aurait été tout abandonné, quoi. Je pouvais pas renoncer à ça, ou même prétendre tout recommencer à Milan. Pfff. Puis en plus, je chante en français, en espagnol. Alors l'espagnol, ça marche pas mal en Italie, mais je chante pas en italien, ou très peu. Donc je pouvais pas renoncer à, je pouvais pas faire ça. Et ma compagne avait commencé une marque d'habits quand le petit est né, par chance ou Dieu merci, commencé à marcher de mieux en mieux. Et du coup, elle est devenue un peu, jeune chef d'entreprise d'une, je sais pas qu'on appelle ça, une start-up, un truc qui commence et qui commençait bien et elle pouvait pas le quitter, quoi. Et puis surtout, on en avait besoin, même pour vivre de ça aussi. Donc on s'est retrouvés chacun coincés chez nous, quoi. C'est ce qui fait que, il n'y a pas eu. J'avais beau retourner la question dans tous les sens, je ne trouvais pas. Alors après, je passais le plus de temps possible là-bas, je grattais du temps dès que je pouvais, je faisais des choses à distance. Mais ce qui est difficile, c'est que au bout d'un moment, tu te déconnectes quand tu n'es pas là, tu n'es plus dans le truc, et puis tu finis par t'habituer, dire. Et puis en fait, tu te rends compte que tu es en train de lâcher le combat. Et donc voilà, il faut y revenir. Et je pense aussi que ça m'a fait. Je sais pas si le terme perdre du temps est bien, mais je veux dire, ça m'a pris plus de temps, je pense, parce que.
Pour ta carrière pro,
ouais. T'entrecoupes toujours, tu repars, tu reviens, les gens ils sentent bien que t'es là, mais que t'es plus là, ils savent plus où ils en sont. Et voilà, ça n'a pas été facile toujours à tenir, quoi.
Je vais partager mon expérience pour les gens qui écoutent. Parce que, donc moi, j'ai monté ma boîte que j'ai vendue là cet été, okay, en 2005, donc quand ma fille est née, juste avant. Okay. C'était situé à Lille, tu vois. Et en fait, tu peux pas monter un média national, d'envergure nationale depuis Lille, ça n'existe pas. Tu vois, Paris est très, ouais, très central pour ça.
Bien sûr.
Donc, au bout de 6-7 ans, donc vraiment, j'ai profité d'elle pendant 6-7 ans, si tu veux, mais au bout de 6-7 ans, je sentais un peu qu'il y avait un truc qu'il fallait faire. Mm-hmm. Et je n'osais pas, parce qu'en fait, j'avais pas envie de les quitter, tu vois, au
bien
quotidien,
sûr.
C'était compliqué.
Bien sûr.
Et l'objectif vraiment, c'était d'ouvrir des bureaux et voir que j'aille travailler pendant la semaine et que je revienne le week-end, quoi, tu vois. Et je me suis dit, j'ai eu ce truc de, ok, t'as deux solutions. Soit tu restes là et en fait, sans doute ta boîte va continuer à vivoter et en fait, peut-être que tu vas même finir par leur en vouloir d'être resté là, parce qu'il y a ce truc aussi.
C'est
tu
ça
vois.
Le truc aussi. Ouais.
Soit tu pars du principe que, en fait, à l'adolescence, elles vont te chier dans les bottes, quoi qu'il arrive, parce qu'en fait, elles vont. Ça fait partie du jeu, quoi, de l'adolescence. Et que tant qu'à faire, autant vivre ton truc à fond dans ta boîte et d'arranger les bidons, quoi. Et en fait, c'est ce que j'ai choisi de faire. Et je suis très heureux, en fait. Tu vois, même si j'ai perdu un lien avec elle à un moment donné qu'on est en train de reconstruire là. Mais en fait, c'est un vrai. C'était une vraie décision, tu vois, de me dire, je crois que je serais d'autant plus frustré si, un peu comme ce fameux Loury, tu sais, de
bien
rester
sûr,
dans un.
Bien sûr.
Comme un lion en cage, en fait, tu vois.
Ouais, c'est une vraie question. Savoir où mettre le curseur entre le devoir de sacrifier, entre guillemets, en tout cas, de faire passer le bonheur des enfants avant le tien. Et en même temps, savoir que si tu vas trop dans ce sens-là, tu te renies. Et si tu te renies, tu n'es plus un bon père parce que t'es malheureux. Et c'est moi, j'ai toujours eu dans mon côté comme ça, un peu traditionnel, l'idée du devoir.
Ouais.
Et même si c'est difficile, j'aimais bien cette idée, tu vois. Il y a Saint-Exupéry qui disait « Je pense que l'homme ne trouve de vrai bonheur que dans le devoir ». Ça m'avait marqué, cette phrase. Je me dis « Waouh ». Sauf que jusqu'où, quoi ? Parce que il faut pouvoir l'assumer, ton devoir. Il faut que tu aies quand même le sourire et que tu transmettes quelque chose de joyeux et de positif. Si ton devoir, il te ruine. Je crois quand même dans le devoir, c'est sûr, mais t'as le devoir d'être heureux aussi, quoi. Donc la question, c'est comment être heureux vraiment. C'est ouais, c'est une vraie question.
Je voudrais te parler de ce titre que t'as sorti, je pense, en 2018, qui s'appelle Héros Anonyme.
Oui.
Où tu parles clairement de ta paternité.
Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais il y a des gens qui m'ont écrit sur Instagram, qui m'ont dit de quoi tu parles vraiment.
Ah, ok.
Ouais. Donc en fait, bizarrement, pourtant il y a un mot ou deux au début qui sont très clairs. Mais pas tant que ça. Après, j'aime bien toujours écrire un peu,
yes,
sans que ça soit trop évident. Et du coup, non. Écoute, étrangement, il y a des gens en fait qui l'ont pas vu si clairement et qui ont pu y voir autre chose. Donc,
t'as ce clip que je mettrai en lien,
oui,
dans les notes. Où, ouais. Tu mets. Alors, une fois que t'as le clip,
Tu comprends.
Tu comprends un peu que c'est ton fiston, quoi.
Bien sûr, ouais.
C'est ton fiston, j'imagine.
Oui,
c'est,
ça.
C'est pas un enfant que t'as choisi au hasard.
Non, ça aurait été trop compliqué. Ça aurait coûté trop cher.
Il est déguisé en. Il a un super costume de dragon.
Ouais, c'est ça, un costume de dragon. Ouais, un petit costume de dragon que sa mère lui avait acheté. Et d'un coup, j'ai vu l'image, je me suis dit, putain, mais. Ça m'a fait rêver, ce petit dragon.
Et t'as décidé d'aller tourner ce clip avec lui parce que vous vous baladez, en fait.
Ouais, en fait, on a eu la chance de voyager quand même un peu quand il était tout petit. Et moi, j'ai eu très vite cette image du petit dragon, de l'enfant perdu, un peu dans une quête. C'était un peu en rapport avec ce que je vivais aussi, tu vois, l'impression qu'il était tout seul quand je le laissais, tout ça. En tout cas. Voilà, j'ai toujours cette folie pour le voyage, cet amour et cette envie d'épopée, d'aventure, tout s'est cristallisé dans ce petit dragon et je me suis imaginé ce petit dragon en train de voyager et de vivre son épopée j'avais prenais le portable de ma meuf à l'époque, quoi. J'avais un portable dégueulasse et du coup je lui piquais à chaque fois.
Ça fait le taf, hein. C'est bien.
Comment?
Ça fait le travail, hein.
D'ailleurs, je suis assez fier, je me dis, j'ai réussi à faire un clip avec un téléphone qui était même pas le mien. Et en fait, je lui prenais tout le temps son téléphone et partout où on allait, je le filmais. Partout. Elle n'en pouvait plus parfois, le petit non plus d'ailleurs, le pauvre. Et même s'il y a eu des moments super, mais bon, c'est vrai que tu dois faire beaucoup, beaucoup de rush pour avoir des belles images. Et puis moi, je suis un maniaque, monomaniaque. Quand je pars sur un truc, je deviens dingue. Et du coup, j'ai fait des plans dans tous les sens, partout où on allait. Tout le temps, j'emmenais le déguisement du dragon, tout le temps. Et puis à cet âge-là, quand les enfants ils sont petits comme ça, tu peux pas les diriger. Enfin,
oui.
Tu c'est que des subterfuges, c'est que de la manipulation. C'est horrible pour leur faire ce que tu veux, mais ils comprennent. Tu vois, genre, oh, regarde l'oiseau, allez, on fait une course et tout, et puis tu filmes et tout. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps avant d'avoir d'avoir les images qu'il faut. Et c'est mon premier clip entre guillemets comme réalisateur, mais je me considérais pas. Enfin, c'est que naturellement j'ai voulu faire ces images et j'ai pris ce téléphone, j'ai commencé et ça a donné ça, quoi, au final. Ça a été filmé, donc on a été au Mexique, on a eu la chance d'aller au Mexique, vers la fin, ces grandes plages et tout, oh, sont si belles, c'est au Mexique, quoi. C'est un endroit exceptionnel. Et puis on a été un peu dans les montagnes en Suisse, un peu en Italie, on avait été au Maroc où je l'ai pris un peu, enfin voilà, un peu partout.
C'est
un clip sur le long terme, il a été filmé, j'ai pas lâché mon projet, tout le monde me disait mais tu vas où avec ton téléphone et ton costume de dragon, et en fait, je dis vous allez voir. Et voilà. Donc, et d'ailleurs, en fait, je viens de tourner un autre clip là qui sortira normalement après l'été, qui se voudrait être le clip officiel du titre Là-bas, qui est le dernier single, dont on a mis les images du documentaire qui sortira, un peu pour faire la promo du documentaire et pour raconter ce voyage. Mais en réalité, moi, je voudrais, en réalité, après, on mettra le clip que j'ai tourné. J'ai fait un peu comme la suite de Héros Anonymes là, il y a un mois. Cette fois avec du vrai matos.
Ouais.
Ma manageuse m'a mis du vrai matos entre les mains. J'étais heureux, c'est la première fois que je fais ça avec du vrai matos. Et donc, je l'ai filmé cette fois en Espagne et avec sa cousine cette fois. Donc, ils sont tous les deux. Et c'est pareil, c'est l'épopée, c'est le voyage de deux enfants qui c'est un peu, c'est pas officiellement la suite, mais c'est la continuité des Héros Anonymes, quoi. C'est le voyage de deux enfants seuls dans la nature.
Tu dis un truc dans ce titre, dans Héros Anonymes. Alors, je l'ai pas noté parce que je fais jamais, et puis je me doutais que t'allais le. Tu pédales dans l'ombre.
Je pédale dans l'ombre pour que tu vois la lumière.
Voilà.
Ouais.
Pour moi, il n'y a pas vraiment de meilleure définition.
C'est vrai.
De la parentalité, ouais.
C'est drôle parce que j'avais parlé avec un auteur un jour et qui m'avait dit un super auteur et tout, hein, qui est adorable par ailleurs, mais qui, je sais plus, il m'avait fait une critique sur cette phrase. Ouais, et j'ai gardé ma phrase, quoi, tu vois, je me suis dit non, c'est elle qui me parle. Mais tant mieux si tu me dis qu'elle te parle et que
pour moi, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que c'est ça,
ouais.
c'est un job, entre guillemets, tellement ingrat, quoi.
Ouais. Et encore plus quand t'es dans des situations difficiles ou, enfin, comme la mienne à ce moment-là, où il y a un moment, t'as vraiment l'impression de pédaler dans l'ombre pour que la barque tienne pour lui, quoi. Donc, ouais.
Il y a une dernière question, tu sais, que je pose à tous mes invités. Peut-être que tu l'as entendu parce que tu me disais juste avant que tu avais écouté l'épisode avec Ben.
Ouais, je pensais écouter qu'un bout et en fait j'étais dans le train, j'ai pu tout écouter, c'était très intéressant.
si demain tes deux enfants se retrouvent face à ce podcast dans 10 piges,
ouais.
Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui?
Alors tu sais que c'est drôle parce que je crois que j'ai juste avant la fin, les dernières minutes, et j'ai coupé la main et j'ai manqué ça.
T'aurais pu.
Et là, waouh, elle est pas mal cette question, ouais, c'est une bonne idée. Hein. Oh, t'es dur là, t'as. Je vais me mettre à pleurer devant le micro. Les enfants.
Ouais.
S'il écoute dans des années.
Dans 10 ans.
Dans 10 ans. Il me faudrait du temps parce que je veux pas me rater là, tu vois.
Ouais, mais
c'est important. S'ils m'écoutent dans 10 ans, je leur dirai, les enfants, papa. papa aura sûrement pas tout bien fait, mais il aura fait de son mieux. Parce que tout ce qui restera de tout, à mon avis, de plus important, c'est vous. Voilà, je pense que. Un jour, j'ai croisé un Italien qui m'a dit. C'est pareil, je sais pas, je me souviens de ça, ça m'a marqué. Qui avait un fils qui était un peu plus jeune que moi, un ado. Puis on marchait, c'était en Italie. Et puis il me dit, Théophile était petit, mon fils. Et puis il me dit, tu verras un jour, tu te rendras compte que de tout ce que t'as fait, tout ça, finalement, le meilleur truc que t'auras fait, la plus belle chose que t'auras réussi, c'est ça. Et ça m'avait marqué, et je pense qu'il a raison. Et ça revient au fait, ça boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la vie est un miracle, et qu'en fait, on a un don incroyable qui est celui de donner la vie, c'est que sans être ni Mozart, ni Léonard de Vinci, ni rien, on fait quand même des enfants, quoi. Donc voilà, les enfants, je vous aime. J'espère que ça va. Coucou les enfants. On est dans un voyage dans le temps. J'espère que ça va. Je vous fais une grosse bise.
Merci beaucoup, Mathieu.
Merci à toi.
Je mettrai tous les liens pour que les gens puissent découvrir. Et puis tu sors un documentaire. Tu disais que tu l'as sorti là comme ça, mais est-ce que tu peux en parler?
Alors, j'ai fait un voyage. Je suis retourné au Panama, donc à La Guaira, qui est le village de mon enfance au Panama. Et j'ai voulu y retourner par une expédition en traversant la jungle pour retourner jusqu'à La Guaira. J'avais un peu ce rêve et j'ai réussi à le réaliser. Et donc c'est un voyage, c'est une épopée dans la jungle où je raconte en même temps un peu en parallèle, j'évoque les souvenirs de mon enfance qui remontent au moment où je suis dans cette nature. Et tout le long du voyage, je chante les chansons de l'album. Soit on les entend dans la BO, soit je les joue en direct. Et voilà, c'est un retour aux racines, à l'enfance, au paradis perdu qui me ramène jusqu'à La Guaira.
Voilà. Ok. Je mettrai tout ça, tout bien comme il faut.
Super.
Merci à toi.
Merci Fabrice.
À plus.
À toutes.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joe l'Esquimau qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en 10 ans. Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi et vous aussi, vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.